Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais retirer mon masque. Pour une fois, je suis un peu en avance. Je voudrais parler des vendanges. Je crois que ce n'est pas encore officiellement commencé dans notre région. Si ? Demain ? Ah ben alors, je suis juste au bon moment. Bon, ben, je me suis trompé en regardant les dates, alors. Je voudrais vous parler de la vigne, plus exactement. Mon titre aujourd'hui, c'est « La vigne de Dieu ». Évidemment, nous avons un certain nombre de textes dans la Bible qui nous parlent de la vigne. Et la vigne est un sujet, à vrai dire, une image assez utilisée dans la Bible, parce que la Bible a été écrite dans des pays méditerranéens, et qu'en Méditerranée, comme dans bien d'autres endroits, y compris en Alsace, la vie, elle est importante. Nous sommes quand même, au-delà de la vigne, dans une période des fruits. Même si l'été n'a pas toujours été bon cette fois-ci, mais a produit quand même un certain nombre de fruits, de fruits sucrés. La vigne, c'est aussi le savoir-faire du vigneron. Et les viticulteurs se concurrencent en essayant de vendre le meilleur vin et de le fabriquer, de nous le faire goûter avec enthousiasme. C'est moi qui suis la vraie vigne, dit Jésus, Jean chapitre 15, verset 1, et c'est mon Père qui est le vigneron. Jésus est la vraie vigne. Le peuple d'Israël et la vigne du Seigneur dans un certain nombre de textes et prophètes, par exemple, de l'Ancien Testament. Et là, Jésus vient dire que c'est lui la vraie vigne. La vigne de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le trésor que Dieu protège, qu'il cultive avec amour, avec soin. Et ici, Jésus modifie l'image et il dit que la vigne, la vraie, c'est lui. Qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi il change l'image comme ça? Jésus va se positionner comme le cep, le tronc, la base, ce qui sort du sol de la vigne, sur lequel vont pousser les branches, les rameaux, les sarments. Donc quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », il va utiliser l'image que Dieu donne dans l'Ancien Testament, mais en la transformant et en disant « Dans cette vigne de Dieu, je tiens un rôle central. » Et nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes sur ce tronc central, sur ce cep. Jésus prend cette place particulière de celui par qui toute la vie vient. Nous sommes sur Jésus et nous recevons de lui toute la vie qui nous fait vivre. C'est une consolidation de la vigne. Le tronc est maintenant garanti constructeur. Avec ce tronc-là, ce cep de vigne-là, plus de maladies qui risquent de venir du sol. C'est Jésus le cep. Plus d'arrachage, d'insécurité. C'est Jésus le cep et personne ne l'arrachera. Et puis le vigneron prend soin de cette vigne. Nous recevrons toujours de lui la sève qui nous est nécessaire. À d'autres endroits, la Bible nous donne ce genre d'image. Par exemple, l'apôtre Paul va parler de la tête et du corps. Et il va dire dans la lettre aux Éphésiens, c'est par Jésus, je résume, c'est par Jésus qui est la tête du corps que le corps tout entier met son œuvre, sa croissance. La tête nourricière de tout le corps, comme le cep nourricier de toute la vigne. Et puis, Paul toujours, est toujours dans la lettre aux Éphésiens d'ailleurs, cette fois au chapitre 2, tout à l'heure à l'instant c'était le chapitre 4, dit que Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire celle qu'on pose en premier, sur laquelle on va mettre tout le reste, à partir de laquelle on mettra tout le reste. C'est en lui, dit Paul au chapitre 2 de sa lettre aux Éphésiens, c'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Trois images pour un même rôle de Jésus dans son peuple. Le cep, nous l'avons vu, nourricier. La tête pour le corps, nourricière. La pierre angulaire, la pierre de fondement pour l'édifice, celle sur laquelle viennent s'appuyer les autres. Et la conséquence, c'est que nous portons du fruit. La conséquence, c'est que sur Jésus-Christ, nous portons du fruit. Verset 4, je lirai tout le texte, alors du verset 1 au verset 8 ou 9 même, mais dans le désordre. Verset 4 donc, « Demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments, les branches. » Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit « demeurez en moi » Enfin, c'est quand même, si on dit comme ça « demeurez en moi », c'est du jargon, hein. Si vous dites à quelqu'un « demeurez en moi », oui, non, moi j'habite pas en moi, j'habite à Mulhouse. C'est du jargon. C'est une expression très belle, mais qu'il nous faut essayer de comprendre. Au verset 7, par exemple, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mes paroles demeurent en vous. » Jésus là donne une explication à cette idée « demeurer en moi ». Alors qu'est-ce que veut dire « que mes paroles demeurent en vous » Bon, on comprend un peu mieux quand même, hein. C'est déjà qu'on les a écoutées. Vous avez déjà lu tous les évangiles ? Les quatre ? Ouais ? Bah, c'est par là que ça commence, hein. Demeurer, les paroles de Jésus qui demeurent en nous, c'est déjà qu'on les a lues, qu'on les a écoutées, méditées. Ça veut dire que ça, demeurer en nous ? Ouais, vous les avez entendues, comme la dernière recette de cuisine que j'ai lue et que je n'ai jamais... qu'est-ce que je dois dire, mise en pratique ou traduite par un plat. Non, demeurer en nous, agir selon les paroles que nous avons entendues. Laisser les enseignements de Jésus modifier nos mécanismes intérieurs. Toucher jusqu'au plus profond de nous-mêmes, nos réactions, nos mécanismes de défense, quand une personne nous fait une critique. Toucher jusqu'au fond de nous-mêmes les mécanismes de dissimulation, comme ceux qui sont déjà décrits dans le chapitre 3 de la Genèse. Quand la femme a dit « c'est pas moi, c'est le serpent », quand l'homme a dit « c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés », dissimulation. Laissons les paroles de Jésus toucher notre orgueil, notre soif de dominer, de manipuler les autres. Voilà ce que veut dire « les paroles de Jésus demeurent en nous ». Il faut les mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. Il faut laisser agir et demander le pardon, le recevoir et le donner. Il faut aimer les autres si on prétend que les paroles de Jésus demeurent en nous et que nous demeurons en Jésus. Demeurer dans mon amour, verset 9, c'est aussi une autre manière de demeurer en Jésus, d'être le sarment sur le cep. Comme le Père m'a aimé, verset 9, je l'ai dit, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Décidément, j'en pose des questions ce matin. Qu'est-ce que veut dire toujours ce verbe « demeurer » en fait, hein. Alors, vous allez quitter le culte et dire « Jean-Marc a dit que nous devons tous être des demeurés ». Et il en donne un très bel exemple. Demeurer dans mon amour. Ça veut dire que je dois prendre conscience tout d'abord que Dieu m'aime. Je pense que c'est le numéro un. Nous avons besoin d'abord, avant de vouloir aimer les autres, de recevoir l'amour de Dieu. Oui, je suis une créature de Dieu. Il nous a créés par amour. Il t'a créé par amour, toi aussi. Même attiré par le mal, même bouffi d'orgueil, même blessé par l'égoïsme, par la violence, je reste aimé de Dieu. Je ne dois jamais oublier ça. Demeurer dans mon amour. Même quand tout à coup, je souffre parce que je me rends compte du mal que j'ai fait, que j'ai dit, j'ai laissé faire, et je me dis j'ai honte, et je me dis je ne suis pas aimable. À ce moment-là, il faut que je me souvienne cette phrase de Jésus. demeurez dans mon amour, laissez-vous aimer. Toujours revenir à cet amour dans nos moments d'égarement. Ne jamais penser que Dieu lâche prise, que Dieu à un moment donné se dit « bon, celui-là, je l'aime plus. J'en ai ras-le-bol, je ne l'aime plus. » Ne laissons pas cette pensée venir en nous. Dieu nous aime toujours et c'est bien ce qui nous arrive, ce qui peut nous arriver de mieux dans notre vie. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est se sentir valorisé, honoré, remis sur pied par cet amour quand je suis par terre. Je me sens en sécurité parce que Dieu m'aime. J'appartiens au peuple de Dieu parce que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis le meilleur, parce que même si je ne suis pas le meilleur, Dieu m'aimera. Je n'ai pas besoin de craindre d'être exclu, de ne plus faire partie du peuple de Dieu, parce que Dieu lui-même s'engage à m'aimer toujours. Et puis aussi, en réponse à cet amour si profond de Dieu, l'aimer lui, que moi je l'aime. Faire ce qui lui plaît. Ne pas faire ce qui ne lui plaît pas. Faire ce qu'il veut. Ce à quoi il m'appelle. Ce à quoi il est sensible. Ce à quoi faire des choses où la petite phrase me dire « je sais que ça lui fera plaisir ». Aimer Dieu. Chercher à le comprendre, s'intéresser à ce qu'il me dit. Chercher à passer du temps avec lui. Chercher à vivre ce que nous vivons ce matin. Au lieu d'aller faire 36 000 autres choses qui seraient certainement très bien, on est venu parce qu'on aime Dieu. On est venu ici parce qu'on aime Dieu. L'équipe de louanges tout à l'heure a préparé les chants pour nous parce qu'elle aime Dieu. La personne qui s'occupe de la sono me permet de parler devant un micro qui fonctionne parce qu'elle aime Dieu. Les gens qui ont fait le ménage dans cette salle cette semaine l'ont fait parce qu'ils aiment Dieu. On va faire la fête du quartier samedi prochain parce que nous aimons Dieu. Et la liste pourrait s'allonger encore. Et puis, aimer Dieu ne va pas sans nous aimer, aimer les autres personnes autour de nous. Nous avons beaucoup de choses qui évoluent dans notre société. On perd un petit peu les usages. Je vous vois aujourd'hui avec vos masques. On a été secoués par beaucoup de choses ces derniers mois, avec la crise sanitaire et d'autres sujets qui nous inquiètent. Alors ne ratons pas ce qui reste, ce qui est important, c'est d'aimer les gens, quelle que soit la manière. Prenons un café avec l'un, appelons quelqu'un au téléphone, quelqu'un d'autre au téléphone, donnons du temps. Même si nous sommes différents les uns des autres, même si nous avons des cultures différentes, même si nous avons des situations de vie différentes, nous sommes originaires de plusieurs continents dans ce monde, ce matin dans cette salle. Nous avons derrière nous ou avec nous des cultures variées. Les uns sont mariés, parents, les autres vivent seuls ou vivent ou ont été mariés, ont connu la vie de couple et ne la connaissent plus. Certains ont eu des enfants, d'autres pas, je l'ai dit. Certains ont un travail très prenant, d'autres voudraient bien avoir un travail très prenant. Certains ont passé la soixantaine, d'autres la voient comme un âge qu'ils n'atteindront jamais. On est très différents les uns des autres. Vous savez quoi ? Aimons-nous d'autant plus. Et aimons celles et ceux qui nous entourent. Verset 2. Tout sarment qui en moi ne porte pas du fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est l'endroit de ce texte qui fait mal, qui est délicat. Vous vous êtes dit, tiens, il ne va pas le lire. Eh bien, si, je le lis. Mais en même temps, je pose une question. Qu'est-ce que veut dire porter du fruit ? C'est une question difficile. J'ai voulu dresser une liste de fruits. Porter du fruit, c'est venir à l'église le dimanche matin à l'heure. Même si on vient en retard, on porte du fruit aussi, mais c'est un moins beau fruit. Où est-ce que je veux dire ? Si je commence une liste comme ça, je ne vais pas y arriver. Mais faites la liste vous-même, pour vous. Du fruit, en même temps, ça se cueille. Ben, je ne vous apprends rien. Nous, les citadins que nous sommes, le fruit pour nous, c'est, on va le prendre chez le marchand de légumes, au supermarché, au marché, etc. Mais à la base, au départ, il y a quand même quelqu'un qui l'a cueilli. Du fruit, ça se cueille. Peut-on cueillir de bons fruits dans ma vie ? Est-ce que les gens qui m'entourent disent, tiens, ce fruit-là, chez Jean-Marc, je vais le cueillir. Il me fait envie, ce fruit-là. Qu'est-ce qui pousse dans ma vie ? Est-ce que mon entourage, en me fréquentant, peut cueillir de l'amour, de la joie ? Ah, il y en a qui se disent, tiens, je pense qu'il fait une citation. De la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Oui, je viens de citer un texte de l'apôtre Paul qui parle du fruit de l'esprit. Personnellement, quand je lis cette liste en disant « il faut que les gens cueillent ces fruits-là dans ma vie », je dis « oulala, il va falloir qu'ils cherchent parfois. Il y a des fruits qui ne sont pas mûrs non plus. Ça va faire mal aux dents. Ça me renvoie à beaucoup de questionnements d'imperfection dans ma vie. Mais en même temps, porter du fruit, c'est quand même ça que ça veut dire. Je les porte pour les autres, pour que les autres puissent venir les cueillir. Pensons à notre vie comme une vigne qui va donner des bons raisins bien mûrs, gorgés de soleil, du raisin qui fera plaisir. Pensons à être cette vigne porteuse de ce raisin-là pour les gens qui nous entourent. Porter du fruit. Il y a d'autres fruits, de la manipulation, j'en ai cité, de l'orgueil, de l'impureté, de la dispute, de la jalousie, de la colère, peut-être il y aura d'autres choses, qu'on peut aussi cueillir dans ma vie. On a du travail, on doit être de belles vignes, mais n'oublions pas que c'est Dieu le vigneron, dit le texte. Laissons Dieu faire son travail en nous. Mettons-nous dans la prière à disposition de l'Esprit-Saint qui fait ce travail en nous. Mes collègues de travail viennent-ils volontiers manger avec moi au restaurant d'entreprise, par exemple, ou dans le coin cuisine de l'atelier ou des bureaux ? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont te dire « Tiens, j'avais envie de venir manger avec toi aujourd'hui » ou est-ce qu'autour de moi, toutes les places sont vides ? Parce que je suis infréquentable. Est-ce que mon voisin me parle volontiers des difficultés qu'il a avec son fils adolescent ou est-ce que j'ai aucun rapport avec mes voisins parce que je ne porte pas de bons fruits ? Est-ce que ma sœur passe volontiers me dire un petit coucou le dimanche soir avant de repartir chez elle ? Ce sont des exemples que je cite totalement au hasard. Ne pensez pas que... parce qu'elle avait envie de me voir, tout simplement, porter de bons fruits. Est-ce que je compte dans mon entourage beaucoup d'amis, tout simplement ? Est-ce que nous sommes de bons amis pour les gens ? Ou est-ce que nous pourrions être de bons amis ? Voilà les questions que je vous pose, que je me pose. Le travail du vigneron, disais-je. Revenons au verset 2. Quel est ce sarment qui ne porte pas de fruits ? Le royaume de Dieu est décrit dans d'autres textes, là encore, un peu de cette manière-là. Il y a, par exemple, le champ qui a, dans les plantes qui poussent, de la bonne céréale et aussi de la mauvaise herbe. Et dans la parabole de ce champ du bon grain et de l'ivraie, pour les connaisseurs, le propriétaire du champ, le cultivateur, dit « on ne va pas arracher les mauvaises herbes avant la moisson ». Parce que sinon, on risque d'arracher aussi les céréales. Donc, on laisse dans le royaume de Dieu, parce que c'est une illustration du royaume de Dieu, les uns et les autres pousser. Ici, dans la vigne, on a des sarments qui portent du fruit et d'autres qui n'en portent pas. La vigne est mêlée. Dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Il y a ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas, etc., fait des exploits en ton nom ?» Et Jésus leur dit « Pouf, alors là, je ne vous connais pas. » Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait des choses certes, mais qui n'ont pas de cœur été disciples du Seigneur, qui ont fait les choses pour être vus, qui ont fait les choses pour gagner une place, mais pas pour servir leur Dieu. L'Église, au sens de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que l'Église est en général dans le monde, est mêlée de personnes qui, de cœur, sont vraiment disciples du Seigneur, et d'autres qui n'en ont que l'apparence. C'est un texte, un thème qui revient à plus d'un endroit dans le Nouveau Testament, je n'en ai cité que quelques-uns. Cela nous remet en question, et cela nous dit, c'est pas juste en venant à l'Église, en s'asseyant sur une chaise, en chantant les cantiques, qu'on est un chrétien. Et c'est même pas en faisant du bien, et faites-en, hein, faisons-en, c'est pas en faisant du bien qu'on est un chrétien. C'est en recueillant de Dieu l'amour et le pardon de nos péchés que nous allons lui demander. Et en recevant de lui cette vie, cette appartenance au peuple de Dieu, reçue par la foi la plus enfantine, la plus simple. Mais c'est ça, être chrétien. Notre vie est une formation. Certains vont garder seulement l'apparence, d'autres vont vraiment être sur le cep et porter du fruit. À chacun de voir où il en est ce matin. Est-ce que je suis porteur de fruits ? Ou est-ce que, non, je ne suis pas porteur de fruits. Si tu n'es pas porteur de fruits, tu n'es pas non plus de cœur greffé sur le cep, fixé sur le cep. Porter du fruit et pour cela être taillé. Taillé. Le vigneron prend un sécateur et il coupe ce qui doit être coupé. Qu'est-ce que Dieu va couper dans ma vie pour que je porte du beau fruit ? Il va falloir retirer les habitudes stériles. Il va falloir, pour donner à la vigne une belle forme, un sens, une beauté à notre vie. Il va falloir retirer le temps perdu pour que nous ayons le temps de faire du bien autour de nous. Peut-être que les souffrances physiques, le vigneron va les utiliser pour enlever de nous certaines futilités, certaines facilités, pour nous apprendre la patience. La précarité matérielle peut être utilisée par le vigneron comme une mise à l'épreuve de notre foi, et même la richesse aussi d'ailleurs, comme une mise à l'épreuve de notre orgueil. La solitude peut être utilisé par le vigneron comme une remise en question de notre dépendance aux autres. Les tensions relationnelles peuvent être utilisées par le vigneron pour former notre patience, notre caractère, notre amour des autres. Les temps de bonheur pur, celui qu'on vit quand la France gagne la Coupe du Monde, par exemple, ces temps-là peuvent être aussi utilisés par le vigneron divin pour nous rappeler que lui donne le bonheur encore plus grand et plus fréquent que celui que je viens de citer. Le vigneron est à l'œuvre dans ta vie, j'espère, parce que c'est ce qui peut nous arriver de meilleur, et même s'il y a des choses à couper, mais ce n'est pas grave, il sait ce qu'il fait. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jésus, là, n'est pas en train de culpabiliser les personnes qui l'écoutent. Il n'est pas en train de leur dire « Mais vous êtes dans le fond du trou !» Non, il est en train de leur dire « Il y a du travail !» Mais vous avez déjà bien avancé. Je sens le ton de Dieu pour moi. Ce ton où Dieu dit « Bon, Jean-Marc, il y a du travail, mais t'es quand même pas à la case départ. » Ce que Jésus dit là, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite », vient saluer le parcours que ses disciples ont déjà fait. Notamment ses disciples, peut-être, Le disciple a un sens plus ou moins large, suivant le cercle qu'on retient. Qu'importe. Soyons féconds. Je terminerai par là. L'image de la vigne est très belle. Nous vivons dans une région où il y a des vignes. Alors nous disons ça avec fierté. Alsace. Il y en a d'autres, hein, j'informe, hein, il y a d'autres régions où il y a de très belles vignes aussi. C'est valorisant d'être comparé à une vigne. C'est très positif, c'est très généreux. Et du coup, ça nous met la pression. Mais en même temps, il y a, dans la vigne, il y a quelque chose de l'ordre du bonheur, de l'ordre de la joie de vivre. Est-ce que de nous émane cette joie de vivre, si nous sommes vignes de Dieu? Est-ce que nous faisons plaisir? Est-ce que nous sommes joyeux, nous? Heureux de vivre, nous? Alors, bien sûr, je ne connais pas les états d'âme d'une vigne, en vrai, mais ce qui se dégage de la vigne, parce qu'il y a le vigneron, c'est cette générosité. Nous avons le vigneron divin, soyons aussi généreux en bonheur autour de nous et à partager entre nous. Je vous invite à prier. Seigneur, si nous voulons être généreux, si nous voulons porter du fruit, Jésus l'a bien dit, nous devons être fixés sur lui. Notre Père Céleste, je te prie pour chaque personne dans cette salle. Je te prie pour que chacun d'entre nous ayons ce souci de te plaire, de suivre ta parole, de laisser les paroles de l'Évangile transformer nos vies le plus profondément qui soit, de laisser la puissance féconde de ton esprit produire son fruit en nous. Nous voulons lire ta parole, Seigneur, pour être fructueux. Nous voulons laisser te prier pour être fructueux. Nous voulons nous aimer les uns les autres, former une communauté qui soit fructueuse pour toutes les personnes qui viennent à nous. Seigneur, pour tout cela, nous savons que la seule méthode est d'être en prière auprès de toi, d'être tes disciples, nés de nouveau du pardon et de la grâce de Dieu, libérés de la culpabilité de nos péchés, fidèles à ta parole, nous te louons, Seigneur, parce que tout cela est possible. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.